VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Anastasie Tudiech avec vous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin d'information. Au Burundi, où le gouvernement a organisé aujourd'hui une manifestation devant l'ambassade de France à Bujumbura, la capitale, pour manifester l'hostilité des autorités burundaises face au déploiement de 228 policiers dans le pays. Cette résolution de l'ONU a été adoptée vendredi dernier à l'initiative de la France. La manifestation s'est déroulée dans le calme et le maire de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, ainsi que de nombreux hauts cadres du parti au pouvoir, de l'administration et du Parlement, figuraient au premier rang des protestataires. L'ambassadeur de France au Burundi, Gerrit Van Rossum, lui, dit, je cite, « Il y a une incompréhension profonde sur le rôle de la France au Conseil de sécurité, mais ça n'a aucun lien avec les relations bilatérales. Et puis, cette résolution est bonne pour le Burundi. » Fin de citation. L'UNICEF a annoncé la reprise de son aide à des millions d'enfants victimes de l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, malgré l'attaque cette semaine de l'un de ses convois par le groupe terroriste qui s'en est pris pour la première fois à un convoi humanitaire international jeudi, faisant 4 blessés. En raison du conflit avec Boko Haram, certaines villes du nord-est du Nigeria, dont Bama, sont restées jusqu'à un an et demi sans aide humanitaire, qui a pu commencer à arriver au mois de juin dernier. Et aujourd'hui encore, de nombreuses zones ne sont accessibles que sous escorte de l'armée nigériane. L'UNICEF estime que 244 000 enfants vont souffrir de malnutrition aiguë cette année dans le seul état de Borno et que sans aide, 20% d'entre eux vont mourir. L'ONU a déclaré en mai qu'au total 9,2 millions de personnes vivant autour du lac Tchad avaient besoin d'aide alimentaire, dont 7 millions au Nigeria. En Tunisie, le Parlement vote aujourd'hui pour décider s'il renouvelle ou non sa confiance au gouvernement de Habib Essid, dont le départ semble scellé après un bras de fer de plusieurs semaines avec la présidence. Indépendante depuis 67 ans, la Tunisie est sous pression depuis que le président Béjikaïd Essebsi a proposé le 2 juin la formation d'un gouvernement d'union nationale, accusé aujourd'hui d'inefficacité alors que le pays traverse une période sensible. Le pays qui a réussi sa transition politique après la révolution de 2011 traverse une crise économique et a été visé par plusieurs attaques djihadistes sanglantes. Restons au Maghreb. Au Maroc, le roi du Maroc, Mohamed VI, a tenu un discours télévisé à l'occasion du 17e anniversaire de la fête du trône, au cours duquel il a déclaré que la récente décision de son pays de réintégrer l'Union africaine ne signifiait aucunement le renoncement du royaume à ses droits sur le Sahara occidental. Rabat, qui considère cette ex-colonie espagnole annexée en 1975 comme une partie de son territoire, propose une large autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario, soutenu par Alger, réclame un référendum d'autodétermination. En Allemagne, le patron de la CSU, allié conservateur en Bavière, d'Angela Merkel, a une nouvelle fois critiqué aujourd'hui la politique d'accueil des migrants de la chancelière. De plus en plus sous pression en Allemagne, notamment après 2 attentats perpétrés dernièrement par des réfugiés. Et elle est d'autant plus sous pression, Madame Merkel, qu'elle exclut tout changement de cap. Jeudi, elle a défendu fermement sa politique migratoire, réaffirmant son credo « Wir schaffen das, nous allons y arriver », lancé à la fin de l'été 2015, année où l'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés. Un credo avec lequel M. Seehofer a pris publiquement ses distances au nom du principe de réalité et du devoir de vérité. La capitale de la Bavière, Munich, a également été le théâtre, le 22 juillet, d'une fusillade lorsqu'un jeune forcené germano-iranien a semé la terreur près d'un centre commercial, tuant 9 personnes avant de se suicider. Et puis le millionnaire sud-africain Mark Shuttleworth, l'un des premiers touristes de l'espace, veut investir dans la petite île de Principe. Il a promis d'investir des dizaines de millions de dollars sur plusieurs décennies dans cette petite île de 12 km de large et 20 km de long, située à 140 km au nord-est de la grande île Sao Tomé, au cœur du golfe de Guinée. Principe compte à peine 6000 habitants. Cette île paradisiaque reste enclavée et pauvre. Mark Shuttleworth, 42 ans, qui a fait fortune avec le système d'exploitation Ubuntu, a racheté d'abord des bungalows sur la plage du Bom Bom Resort à un groupe néerlandais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.